Chapitre 4. Je m'habillai machinalement en pensant à l'épreuve qui m'atteignait. Un peu de calme commençait à se faire en moi, un plan s'ébauchait. Dans 8 ou 10 jours, dès que mon tuteur m'aurait rendu ses comptes, je quitterais cette maison, j'irais à la Meulière. Si peu confortable que pût être cette vieille demeure, elle me serait plus douce que celle-ci, où j'étais détestée, où l'on épirait les moindres signes de défaillance, de tristesse, sur ma physionomie. Puis j'y serai chez moi, je trouverai tout près l'aide affectueuse de ma métayère, Catherine Bardôme, qui avait été ma nourrice et m'écrivait chaque année, au 1er janvier, de bonnes lettres, demandant invariablement quand j'irai passer quelques jours à la Meulière, où tous seraient heureux de me recevoir. Une fois cette décision prise, je me sentis moins découragée, et ce fut d'un front serein que j'entrai dans le salon, où, déjà, se trouvait M. Huchard en conversation avec les Bardusac. On devait s'entretenir de ma ruine, car tandis qu'il me saluait, je rencontrai son regard apitoyé. J'y répondis par un petit sourire d'ironie. Pendant le repas, je me montrai causante, gaie comme à l'ordinaire. M. Huchard, placé à ma droite, m'entourait d'attentions un peu lourdes et essayait des phrases prétentieuses dont la fin n'arrivait jamais. Comme je prenais son bras en quittant la table, il me glissa à l'oreille. « Êtes-vous courageuse? Mais on ne vous laissera pas dans la misère, ne craignez rien. » Je tournai légèrement la tête vers lui en ripostant avec froideur. « Je ne serai pas dans la misère, monsieur, car j'ai, grâce à Dieu, la santé et la jeunesse qui me permettront de travailler. » Et à peine dans le salon, je le laissai là pour aller m'asseoir près de Madame Jaule, qui ne me plaisait guère, mais que je préférais encore à cette amie des Bardusac. Puis, dès que je le pus, je regagnai ma chambre pour écrire à Catherine, tandis que Madame Bardusac s'habillait dans l'intention d'aller voir quelques bonnes amies et de leur conter ma mésaventure, déjà connue de tous les invités au déjeuner, ainsi que me l'avaient appris les chuchotements, les coups d'œil de pitié protectrice ou de malveillance satisfaite. Catherine Bardôme me répondit courrier par courrier. Elle se répandait en longues phrases désolées à propos de ma ruine, maudissait tous les hommes de finance et m'apprenait qu'on m'attendait à la Meulière avec bien de la joie. « Mais, notre demoiselle, la maison est en si mauvais état. La pluie tombe dans le salon, dans plusieurs chambres les portes ne ferment pas. » Puis, il n'y a pas de meubles, autant dire, car l'humidité a pourri ceux qui restaient encore. Le pauvre monsieur laissait les choses aller comme elles voulaient, et au moment de sa mort, tout aurait déjà eu besoin de réparation. Voilà 20 ans de ça, et la ruine a continué de travailler là-dedans. Je ne vois guère qu'une chambre de logeable. Elle est grande et belle, en plein midi, sur le jardin, les papiers ne sont pas moisis, ni le plafond, et le plancher redeviendra très vite brillant, car c'est du beau chêne. Mais il n'y a pas un meuble convenable pour vous, notre demoiselle. Si j'osais, je vous offrirais une chambre à la métairie, celle d'Angélina, ma fille. Ce serait de bon cœur, bien sûr, et peut-être que vous serez mieux là tout de même, plutôt que toute seule dans la vieille maison. » En terminant la lecture de cette lettre, je jetai un coup d'œil autour de moi. Il y avait là le mobilier de la chambre de ma mère, les bibelots qu'elle aimait, 2 ou 3 portraits d'ancêtres, une fort belle glace ancienne. Quelques meubles encore, conservés à cause de leur valeur, quelques objets d'art et d'autres portraits ornaient le salon de Madame Bardusac. Tout cela suffirait largement à meubler la partie habitable de ma demeure. Et, quoique reconnaissante à Catherine de son offre, j'étais certaine à l'avance que j'aimerais mieux conserver toute mon indépendance, si peu confortable que fût le vieux logis. Tandis que je songeais ainsi, Madame Bardusac entra. Elle jeta un regard de côté sur la lettre que je tenais encore et demanda « C'est votre amie Juliette qui vous écrit ?» Juliette Mancel était une de mes anciennes compagnes de couvent, avec laquelle j'avais conservé des relations épistolaires. « Non, madame, c'est Catherine Bardôme, ma nourrice. Elle me dit qu'on m'attend avec joie à la Meulière. Aussi vous quitterai-je dès que M. Bardusac n'aura plus besoin de moi pour le règlement des comptes de tutelle. Alors, décidément, vous voulez vous réfugier à la Meulière ?»« Provisoirement, oui. Il se pourrait cependant qu'il se présentât pour vous une autre solution. » »« Une autre solution ? Laquelle ?» Et tout à coup, devant la mine moitié figue et moitié raisin de Madame Bardusac, je songeais, Est-ce que le docteur Bordet maintiendrait sa demande, quand même ? Le petit tic-tac reparut et j'eus conscience qu'un peu de rose me montait au visage. « Oui, une solution inespérée pour vous, un mariage superbe !»« Allons, c'était bien cela, le tic-tac s'accentua. »« Il est complètement toqué de vous, ce qui est assez fou à son âge. »« Hein, que disait-elle là ? Marc Bordet avait 30 ans et moi 21. Il me semblait que... » Mais enfin, ça le regarde, et j'espère que vous avez assez de cœur pour remplir tout votre devoir à l'égard d'un homme qui vous donnera une belle fortune. » Elle prenait un ton solennel en gonflant ses joues flasques, en me regardant de haut en bas, avec un air de dire « Vous avez plus de chance que vous ne le méritez. » Je m'écriai « Mais de qui voulez-vous parler ?» De ce pauvre Huchat qui fera en cette circonstance la première sottise de sa vie. Crac ! Du coup, le tic-tac s'arrêta net, le rose léger devint la rougeur vive de l'indignation. Madame Bardusac poursuivait. « Un capital de 3 millions, ma chère, honnêtement gagné dans l'alimentation. Jamais vous n'auriez pu espérer cela. » Sa voix prenait des intonations fielleuses et l'envie luisait dans son regard. Je l'interrompis brusquement. « Ceci est une plaisanterie, madame. Comment pouvez-vous penser qu'à mon âge, j'accepterai d'épouser un homme de 58 ans ?»« Oh oh, ma petite, pouvez-vous donc être si difficile maintenant ? Sans doute, vous ne trouverez plus de mari à sortir à vos 20 ans. Il faut bien vous persuader de cela. » »« Je le sais et j'en prendrai mon parti, mais jamais je ne ferai un mariage dans le genre de celui que vous m'offrez. » Elle leva les épaules. « Je vous crois en effet assez sotte pour cela. Cependant, Huchard est un homme aimable, de bon caractère, et il est bien conservé encore. » « N'insistez pas, madame. Même plus jeune, M. Huchard n'aurait pu me convenir, car il appartient à un milieu qui, tout honorable qu'il soit, n'est pas celui de ma famille, et son éducation, ses goûts, sont trop différents des miens. » Je touchais là un point sensible. Madame Bardusac, jalouse de la classe sociale à laquelle j'appartenais, se hérissait dès qu'une allusion était faite à ses origines plus modestes ou à celles de ses relations. Elle devint très rouge et tenta de me foudroyer du regard. « Ah, ce sont ces misérables motifs d'amour-propre que vous opposez à la demande de notre ami, une demande dont vous devriez vous trouver très honoré avec les 4 sous qui vous restent. » « Mais soit à votre guise, mademoiselle. Mourez donc de faim dans votre maison en ruine. Vous vous souviendrez sans doute plus d'une fois, avec regret, de celui qui voulut vous faire riche, car les millions, aujourd'hui, ça vaut mieux que les titres de noblesse. » Elle sortit furibonde. Je m'assis et demeurai longtemps rêveuse, le cœur serré. Ainsi, parce que j'étais ruinée, on osait m'offrir ce mariage, ce marché. « Trop heureuse serais-je, pensait-on, d'échapper de cette manière à la gêne. Qu'importait que le prétendant fût presque sexagénaire, vulgaire et prétentieux. Il était bien assez bon pour Gillette Darbier maintenant. » Des larmes me montaient aux yeux. Ah, que la vie était chose vilaine quand on la regardait par certains côtés. Et quelle tristesse de me trouver seule, toute seule, pour me défendre des pièges qui seraient tendus à ma jeunesse. » Je dus demeurer encore 15 jours chez les Bardusac, ma présence étant nécessaire pour le règlement des affaires. Je fis procéder pendant ce temps à l'emballage et à l'expédition de mon mobilier. Ce fut pour Madame Bardusac un instant désagréable que celui où l'on enleva de son salon le petit canapé Louis XVI, si joli, les 2 bergères, le délicieux secrétaire en bois de rose, la table garnie d'incrustations délicates et les portraits de mes ancêtres qu'elle avait accrochés à la file bien en vue. Je crois qu'elle en était arrivée à se figurer que ces dames en panier et en robe de mousseline, ces gentilshommes portant l'habit de cour ou l'uniforme de leur régiment, étaient ses aïeux et non les miens. Un jour, je l'entendis qui disait à Madame Jaule « Franchement, ma chère, croyez-vous qu'après tout ce que j'ai fait pour Gillette, elle n'aurait pas pu me laisser ces quelques malheureux meubles plutôt que de m'obliger ainsi à bouleverser mon salon ?» Et Madame Jaule, toujours de l'avis du dernier qui parle, répondit « Oh, certainement, c'était la moindre des choses. » « Allons, elle ne doutait de rien, Madame Bardusac. Il me semblait pourtant que je lui avais largement payé son hospitalité intéressée. Et je restais après cela sans dette à son égard, puisque jamais je n'avais reçu d'elle un peu d'affection, un peu de sympathie. Dans la semaine qui précéda mon départ, je fis mes visites d'adieu. Quelques personnes crurent devoir prendre, en me recevant, un air apitoyé. Mon entrain, ma gaieté, les déroutèrent aussitôt. Je me déclarais enchanté d'aller vivre à la campagne pendant quelque temps. « Vous en aurez vite assez, me prédit-on. » C'était possible. Pour le moment, je me sentais très satisfaite de quitter les bars d'Uzac et d'acquérir ma liberté. Je n'entendais plus parler du docteur Bordet, à qui Mme Jaulle avait dû transmettre ma réponse. La veille de mon départ, en revenant de l'église, je le croisais dans la rue Neuve. Il me salua, puis détourna aussitôt les yeux. J'avais rougi un peu, mais je n'éprouvais qu'une émotion légère, une gêne plutôt. Grâce au ciel, je n'avais pas encore eu le temps d'aimer cet étranger. Ainsi, son recul ne pouvait me faire réellement souffrir. Et je me disais qu'il n'était pas d'âme bien haute, cet homme nanti d'un bel avenir et de parents fortunés, qui n'avait pas su faire le beau geste de maintenir sa demande quand même. Allons, ce n'était pas encore de l'amour bien désintéressé, cela. En rentrant, je m'occupai de plier mes vêtements et de les ranger dans une malle. La vue de ma jolie robe bleue me rappela une belle journée de juin, un jeune médecin très empressé, très admirateur. Je levai les épaules en murmurant « Ma pauvre robe couleur du temps, nous avons descendu plus d'un échelon depuis ce moment-là. »